Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC. Il est quasiment 9h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Porcher pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. Pas de victimes, peu de dégâts, mais une attaque massive et historique. L'Iran a tiré des centaines de drones et de missiles sur Israël cette nuit. On fait le point dans un instant. Près de la moitié ne s'y intéresse pas. Ils sont encore plus à s'inquiéter sur l'organisation. Les Français, pas vraiment jojo avant les JO. On vous détaille ce sondage dans un instant. Et puis, capitaine courage de l'Olympique Lyonnais en football. L'OL compte sur lui pour finir fort la saison. C'est Alexandre Lacazette et ça commence ce soir contre le Dauphin Brestois.
Une longue nuit de bombardements en Israël, l'Iran a attaqué l'État hébreu.
Attaque déjouée, assure ce matin Tel Aviv, parce que sur les 300 drones et missiles qui ont visé Israël, seuls quelques-uns ont atteint leur cible sans être abattus. Reste les explosions qui arrachent le silence, les sirènes anti-bombardement qui hurlent pour prévenir la population. C'est ce que décrit Sarah, une franco-israélienne qui habite à Tel Aviv.
Je me suis réveillée vers 4h du matin quand ils ont commencé à intercepter les missiles au-dessus de moi. Déjà, ça fait plus d'une semaine qu'on entend des avions de guerre au-dessous de nous. Mais là, cette nuit, c'était interminable. C'était des avions de guerre, des drones, des interceptions très fortes au-dessus de nous. Et voilà, et là, j'attends... On est le lendemain matin et j'attends la riposte. Je me demande ce qui va se passer. C'est tout simplement la première fois que ça arrive que l'Iran attaque Israël. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler... La riposte, je sais pas.
La riposte et des suites que l'Iran ne veut pas. L'affaire est close, dit ce matin Téhéran, qui appelle Israël et les États-Unis à ne pas réagir, Johanna Chabas.
Oui, et l'Iran prévient, en cas de riposte d'Israël, la réponse de Téhéran serait considérablement plus sévère. Alors, pour décider de la suite, le président américain et le premier ministre israélien se sont parlé dans les petites heures de la matinée. Joe Biden a assuré Benjamin Netanyahou de son soutien inébranlable. Le président américain va convoquer les dirigeants du G7 pour trouver une réponse diplomatique à l'attaque iranienne. Mais à l'ONU, on s'inquiète. Son secrétaire général, Antonio Guterres, craint une grave escalade. Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence aujourd'hui à la demande de Tel Aviv.
Alors, Johanna, affaire close ou pas pour l'instant ? Pas de nouveaux tirs ce matin. D'ailleurs, à l'instant, le chef des armées iraniennes affirme que tous les objectifs ont été atteints. On peut commencer à faire un bilan de cette attaque.
Oui, un bilan en demi-teinte. J'allais dire, les deux camps se renvoient la balle parce que Israël dit avoir déjoué l'attaque iranienne. Selon Tel Aviv, 99% des tirs ont été interceptés. Les drones et les missiles ont survolé le ciel israélien pendant plus d'une heure, mais ont été majoritairement abattus par le dôme de fer, ce système de défense aérien, mais aussi par les forces militaires américaines et un petit peu par la France. L'armée israélienne explique que la très bonne technologie de la France a contribué à patrouiller l'espace aérien. Elle ne précise pas si des engins français ont participé à descendre des drones. Mais au sol, ce matin, en tout cas, pas de dégâts majeurs selon Israël, pas de victimes constatées. Mais prudence, car l'Iran dit que la moitié de ses missiles ont touché leur cible. On saura plus tard, mais signe que pour Tel Aviv, le pire est passé. Le pays a rouvert son espace aérien dans la matinée.
Merci Johanna Chabas et j'ajoute par ailleurs que les renseignements israéliens affirment ce matin que le Hamas palestinien a refusé un projet de trêve à Gaza. Il avait été discuté durant de nombreuses semaines. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'identification de l'assaillant d'un centre commercial à Sydney en Australie. Un homme de 40 ans atteint d'une maladie mentale est connu de la police. Rien ne lie cette attaque au couteau à un acte terroriste selon les autorités. Le bilan est pour l'heure de 6 morts.
C'est 9h03, à presque 100 jours des Jeux Olympiques, les Français n'ont plus la flamme.
Et oui, plus de la moitié sont inquiets sur l'organisation. Grosse dégringolade pour la confiance en la sécurité. Moins 13 points en 6 mois. 55% des Français font désormais confiance aux forces de sécurité. Ce sont les principaux enseignements d'un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche ce matin. Juste avant une nouvelle salve de 250 000 billets mise en vente ce mercredi. Presque tous les sports sont concernés, Léonie Guilbeault.
La billetterie fonctionnera sur le principe du premier arrivé, premier servi, ouverture mercredi dès 10h sur le site officiel de Paris 2024. Toutes les gammes de prix, dont tous les sports, sur tous les sites olympiques, c'est la promesse du comité. La moitié des billets seront vendus entre 24 et 100 euros. Le prix de vente de 12 500 billets sera lui supérieur à 400 euros. Dans certains sports où toutes les places étaient déjà écoulées, il y aura de nouveaux billets mis en vente, assure Tony Estanguet, mais il faudra être rapide, prévient-il. Les 250 000 nouveaux billets seront sûrement pris d'assaut comme les 8 millions déjà vendus. Une dernière session s'ouvrira dans quelques semaines et tous les détenteurs de billets pourront aussi revendre des places sur la plateforme officielle dans le courant du mois de mai.
Léonie Guilbeault, et puis la sécurité des événements sportifs, elle est aussi en question. Je vous signale cet affrontement hier entre supporters de Toulouse et de Rennes. Il y avait un match de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, un affrontement donc entre supporters qui a fait 10 blessés. Seul un a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien, a précisé le procureur.
On l'a un peu oublié, mais le Covid traîne toujours et une nouvelle campagne démarre demain.
Elle est destinée aux personnes les plus fragiles, mais tout le monde peut se faire vacciner. Sauf qu'Yves Buisson craint qu'elle n'ait que peu de succès. Alors l'épidémiologiste appelle les médecins à sensibiliser les personnes concernées par cette vaccination.
Les rappels qui ont été recommandés chaque année pour les personnes de plus de 65 ans sont très très peu suivis. En 2022, ils ont été mal suivis. En 2023, encore moins bien. Entre 80 et 90% des personnes qui auraient dû faire ces rappels qu'ils ne l'ont pas fait. Il faut que les médecins généralistes, que les gériatres, que les personnes qui entourent, qui s'occupent des personnes âgées, insistent pour que ces personnes soient bien vaccinées. La grippe et le Covid, c'est vraiment deux infections respiratoires qui tuent très souvent beaucoup les personnes à risque. Donc il y a un retard en couverture vaccinale qu'il est impératif de rattraper.
Yves Buisson, épidémiologiste, cette campagne, elle se terminera le 16 juin, mais elle pourrait être étendue jusqu'au 15 juillet en fonction de la situation épidémiologique.
Du foot avec Lyon-Brest ce soir en Ligue 1.
Deux équipes en forme, l'une depuis le début de la saison, Brest, en témoigne sa place de dauphin du Paris Saint-Germain au classement. L'autre depuis quelques semaines, car l'OL, c'est le tube de l'hiver 2024. Les hommes de Pierre Sage empilent les points. 31 sur 42 possibles pour une chasse à une place européenne. Édouard G, un homme symbolise cette bonne période, c'est Alexandre Lacazette.
Oui, un buteur relancé par l'attitude du staff depuis décembre, attitude de confiance, surtout ce qui fait mouche. À vous, son complice de la formation, Enzo Real.
Si tu lui montres que t'as pas confiance en lui, eh ben, tu peux rien tirer de lui parce que malgré tout, il a son petit caractère de cochon. Vaut mieux lui montrer qu'on a confiance en lui. Et là, par contre, eh ben, tu peux aller à la guerre avec lui.
Une guerre, ballon au pied, dans laquelle le général Lacazette, comme le surnomme ses fans, entraîne ses coéquipiers Pierre Sage, son entraîneur.
De par son expérience, il arrive à aider les joueurs qui n'ont pas été dans ces situations-là à les gérer positivement.
Résultat, un collectif secret au cœur duquel un connaisseur averti de l'ami Enzo Real découvre que désormais Alexandre Lacazette fait d'une miette son festin offensif.
Par exemple, un cafouillage dans la surface, eh ben, il est capable de le transformer en but, il est capable de marquer en taclant aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu un joueur de surface et un renard.
Un renard qui à lui seul ramène plus d'un tiers des points de son équipe.
Édouard G pour RMC. Seulement deux autres matchs au programme aujourd'hui. Le Havre-Nantes à 13h, Clermont-Montpellier à 15h. Pourquoi seulement deux autres matchs? Parce que les Européens, Lille, Marseille et le Paris Saint-Germain sont au repos. Il y en a un autre qui est mis au repos, le prodige du basket français Victor Wembanyama, qui ne finira pas cette saison de NBA pour préserver une cheville douloureuse. Son bilan pour une première saison, 21 points de moyenne, 21 points et demi de moyenne, 10 rebonds et 4 passes. Et puis on passe aux courses. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 15h15. Voici le pronostic de Mathieu Zaccanini pour la Dream Team des courses RMC. Son favori, le numéro 7, Nolito. Son outsider, le numéro 11, Cosmo Bouff.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Victor. Victor Pourchet, il est 9h08 sur RMC. C'est l'heure de découvrir qui a gagné les places pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors, qui a gagné? C'est Yannick qui a gagné les places pour les JO. Yannick qui fait partie des gagnants à qui l'on offre des places. Vous savez qu'on a 100 places à distribuer comme ça dans tous nos shows. Et il faut choisir. C'est ça, Marie?
Oui, il faut choisir. Là, devant moi, j'ai soit deux places pour assister aux demi-finales et finales d'athlétisme, finale du 200 mètres hommes, finale du 400 mètres femmes, le 8 août au Stade de France, soit deux places pour assister au 8e quart demi-finale d'escrime, le 1er août au Grand Palais. Je ne sais pas par quoi je suis le plus tentée, finalement.
Mais c'est pas à vous de choisir. Exactement, Marie. Non, mais qu'est-ce que vous croyez, là? On va demander à Yannick. Bonjour, Yannick.
Bonjour.
Ça va bien d'abord?
Ça va très bien, oui.
Bah oui, plutôt pas mal, puisque vous venez de gagner des places pour les JO.
Ouais, c'est génial. Je n'ai pas été allé travailler, là, vous voyez.
Ah, vous passez de... Ah, bah ouais. La journée commence bien. Yannick, vous choisissez quoi? Athlée ou escrime?
Plutôt athlée.
Athlée?
Oui.
Ouais, vous êtes libre le 8 août, hein, au Stade de France.
Bah voilà.
Ouais. Bon bah super.
Ouais, bah, on en sorte, ouais.
Bah bravo, bravo.
Ouais, merci beaucoup.
Bravo. Bah puis, si vous voulez faire comme Yannick, remporter deux places, j'ai mon ami Simon Dutin qui vient de débarquer et je crois qu'il en a aussi dans ses poches.
On en a quelques-unes effectivement.
Ah, pour les grandes gueules du sport. Bonne journée Yannick et à très vite sur RMC.
Merci.
Simon Dutin, quel est le programme des grandes gueules du sport? On va évidemment beaucoup parler des Jeux Olympiques, quasiment sur jour.
On en parle tous les jours, évidemment, à quelques cent jours.
Ça se rapproche, ça se rapproche.
De la cérémonie d'ouverture, évidemment. On rappelle qu'on est radio officielle de l'événement. Sarah Pitkowski, Marie Martineau, Pascal Duprat, Christophe Sessieux pour le casting autour de moi pour accompagner les auditeurs jusqu'à midi. On va revenir évidemment sur le match retour de quart de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Ce sera l'événement sportif de la semaine. Une élimination du PSG serait-elle synonyme de saison ratée pour Paris, qui risque quand même de remporter le titre de champion de France? Puis vous savez, on a dit qu'on n'en faisait plus une obsession côté du club de la capitale.
Leur portez pas la poisse quand même.
Bah, je leur porte pas la poisse, on attend, ils ont quand même un but de retard. On parlera à 11h des reports, justement c'est un petit peu lié, vous savez, on protège au nom de l'intérêt supérieur du football français, les clubs français encore engagés en Coupe d'Europe, ça agace un petit peu en Ligue 1, on en parle à 11h. Et puis la technologie va-t-elle tuer l'arbitrage? On s'en plaint en tennis, on s'en plaint au football. Mathieu Van Der Poel, c'est jour de classique aujourd'hui, l'Amstel Gold Race, il semble imbattable le néerlandais, et pourtant certains coureurs croient encore à la victoire. Et puis les rubriques habituelles, le zapping, le débat caché et la chronique de Tonton Cessieux, c'était mieux avant, consacré aujourd'hui à Michel Jazzy, vous savez. Anaïs, ouais, c'est plutôt dans les années 60, on n'était pas encore.
Non, je pas, quand même, vous êtes gentils, vous rigolez ou quoi? Allez, filez, vous venez tout à l'heure à 9h30. J'hallucine, il croit que j'étais née dans les années 60.
Non, justement, ça ne nous concerne. On va apprendre beaucoup de choses, nous n'étions pas là, ma chère Anaïs, voyons.
Rendez-vous tout à l'heure, 9h30, pour les grandes gueules du sport avec Simon Dutin et toute son équipe. Et d'ici là, votre rendez-vous pour nous régaler, nous apporter du bonheur dans nos assiettes. Le beurre et l'argent du beurre avec Perico Légas. Perico, de quoi parle-t-on ce matin?
Mais on va saucissonner sec, mais on peut aussi saucissonner grain. Principal, c'est qu'on ait du bon boyau et puis la bonne bouteille qui va avec.
Allez, on se retrouve dans deux minutes sur RMC, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Avec Perico Légas. Bonjour Perico.
Bonjour Anaïs, bonjour Clara.
Et Clara Gabillet qui est toujours avec nous. Rebonjour Clara. Perico qui voulait absolument célébrer le retour des beaux jours en nous parlant d'un des produits stars de l'apéro, le saucisson.
Je me disais, Anaïs, ça fait bientôt 7 mois que nous sommes ensemble dans ce studio pour faire le beurre et l'argent du beurre avec Mathieu et vous-même. Et je me suis dit, on n'a pas encore parlé du saucisson.
Mais non, c'est vrai.
Moi,
ça,
défenseur quand même du patrimoine culinaire et gastronomique français, ce produit merveilleux, emblème de la France, de la gourmandise, du bien-être, de la convivialité, du bonheur de se mettre autour d'une table, de saucissonner pour n'importe quelle raison. C'est vraiment l'aliment que je peux manger à toute heure. Je vous avoue, hier soir, il était 2h du matin, je finissais un article, j'ai eu un petit creux comme de Funès dans la grande vadrouille. Et j'écoutais le saucisson que j'avais sélectionné pour l'émission d'aujourd'hui.
Je suis pas sûr que ça soit recommandé, mais
non,
bon,
mais j'ai pris deux tranches, voilà. Alors, ouais, bien entendu, on va bien mettre l'accent sur l'accès. Ouais. C'est une salaison, c'est très gras, très sucré. Oui. Son abus, son addiction est extrêmement nocive. Vous voyez, je parle en toute franchise. Et puis, vous avez bien sûr, on avait évoqué le problème, vous avez des nitrates et des nitrites dans le saucisson, puisque ça. Mais vous avez de plus en plus de saucissons qui n'ont pas de nitrites, pas de nitrates. On va en parler, on va donner un détail. Donc, on est d'accord? Pas d'abus, rien de trop.
Mais on a le droit de saucissonner de temps en temps.
J'allais dire à jouir avec modération, parce que c'est une jouissance. Et on va essayer d'écrypter pendant cette, pendant ces 10 minutes comment choisir un bon saucisson.
C'est une jouissance si le saucisson est bon. Comment choisit-on un bon saucisson? À quoi repère-t-on un bon saucisson?
Déjà la diversité.
Et comment est-il élaboré?
J'allais vous dire, chère Anaïs et chère Clara, très hypocritement à son prix. Vous avez de 4,50 à 26, 27. Vous
imaginez, c'est un bon indicateur.
C'est
le premier prix, non.
C'est un indicateur.
On n'y va pas.
Non, mais vous avez des saucissons à 22 qui seront pas meilleurs que celui à 9,80 ou à 10,50. Là, j'ai fait vraiment toute la gamme, j'ai tout vérifié. Mmh. On va donner quelques marques. Bien sûr que le prix est essentiel. Pourquoi? Parce que le prix, en fait, définit la qualité du cochon. Est-ce que c'est un élevage de cochons industriels où ils sont entassés par centaines, pour ne pas dire par milliers? Là, vous avez du cochon de batterie. On va avoir une viande de porc, j'allais dire, de qualité extrêmement contestable, hein, en tout cas très limitée. Et puis, vous avez l'élevage fermier, le saucisson artisanal. Alors, ça peut être un petit élevage, un plus gros élevage. C'est pas la quantité qui est importante. C'est qu'est-ce qu'il nourrit? De quoi il se nourrit? Dans quoi il vit? Comment il évolue? Et là, si vous avez un cochon qui vit dans la campagne, qui vit dans la nature et qui mange beaucoup de végétaux, qui mange de l'herbe ou du foin, vous avez une qualité de viande qui est évidemment meilleure. Comment est fait le saucisson ? C'est très ancien. Les Romains en faisaient déjà. Surtout les Gallo-Romains, on suppose que les Gaulois ont dû donner, à mon avis, dans cette façon de travailler, de transformer le cochon, un petit tour de main. Le saucisson, c'est quoi? C'est un boyau. En fait, c'est le gros intestin du porc que l'on remplit avec un ensemble qui s'appelle la mêlée. Alors, ça peut être de la poitrine, surtout de l'épaule. Quelquefois, le morceau du jambon qui n'est pas utilisé pour le jambon. Et puis, on rajoute, évidemment, des morceaux un petit peu plus gras. Souvent, vous avez un petit peu de ventrèche qui est là. Et c'est un équilibre entre le sec et le gras qui fait la qualité du saucisson. On va dire 60-40, 60% de maigre, 40% de gras. Alors, on peut avoir un saucisson un peu plus sec si on a plus de viande rouge.
Ou voire plus suintant, non je déteste ça.
Et par contre, l'industriel va avoir beaucoup de gras. Et puis alors, des gras qui sont, j'allais dire, des chutes d'abattoir, c'est pas toujours recommandable. Ouais. Mais on voit bien un saucisson entre 5 et 8 euros. Attention, souvent, il est vendu en grande surface. On voit une marque. Voilà, faites attention. Essayez de regarder sur l'étiquette. Prenons le temps de regarder. Et lorsque l'on voit l'origine du saucisson, vous avez toujours les indicateurs de l'endroit de préparation.
Qu'est-ce qu'il faut regarder? IGP
Alors, vous avez des saucissons en IGP. Je veux dire, le territoire favori, emblématique du saucisson, c'est quand même... C'est vaste hein, comme zone, c'est le Massif Central. Donc vous avez l'Ardèche, le Vivarais, le Velay. Et c'est vrai qu'il y a une tradition auvergnate, on peut dire, auvergnate, dans le Rouergue également aussi éventuellement, et puis dans le Vivarais, d'une tradition de saucisson, parce que il est bien entendu que le saucisson de montagne, quand le cochon est en altitude, et c'est vrai pour les jambons également, regardez les jambons de Parme, les jambons français des Pyrénées ou les jambons espagnols, ce sont des jambons de montagne. Eh bien, le saucisson de montagne, il a cet avantage d'avoir gardé cette tradition de préparation, d'élaboration, des porcs qui sont élevés dans la nature de meilleure qualité, et on a quelques fleurons aujourd'hui du saucisson français dans ces régions du Massif Central. Bon, je peux vous donner quelques maisons. Il y a la maison Lost que l'on voit souvent, L-O-S-T-E. Moi, mon coup de cœur favori, c'est la maison de Culti qui est atterrée dans le Forez, au-dessus de Saint-Étienne. Vous voyez, c'est cette cordillère, j'allais dire, du saucisson. Le Morvan aussi en fait. Mmh. On en a évidemment dans
Mais
les
Bourges. Mais on le trouve en supermarché ou pas?
On peut les trouver en supermarché. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Alors là, je dis, faisons appel à Internet. Vous avez de la vente en ligne, un saucisson qui vend en ligne. Le site s'appelle Pour de Bon. Ouais. Et là, vous avez toute une gamme de saucissons à des prix tout à fait corrects. Il y en a à 9,50, 10,80, 11,60. Et là, vous avez en ligne, je crois qu'un minimum de 20 euros de commande, vous avez un vrai saucisson français, artisanal, ou en tout cas façon artisanale, qui vous donne le plaisir pour éviter le saucisson industriel qui est élaboré avec des porcs dont on ne connaît pas la provenance puisque vous n'avez pas la traçabilité sur les viandes européennes. Ouais. Et là, on rentre évidemment dans une logique qui est tout à fait différente du saucisson français dans la mesure où c'est un sujet d'addiction. L'apéro, en général, il est quotidien. Je parle de la belle période.
Ah oui.
Ah mais non, pas toute l'année.
J'allais dire quand même.
Non, mais là, on va rentrer dans la période.
Des vacances.
Les vacances de printemps, les trois jours, il va y avoir les week-ends de mai, ensuite il va y avoir les vacances d'été. Et je connais justement des Français qui, parce qu'on réduit l'importance du repas, la quantité pour des raisons financières, on reporte, j'allais dire, l'acte alimentaire sur le moment de l'apéro.
Attendez, en plus, l'apéro remplace de plus en plus le dîner. Bien sûr.
Évidemment, le saucisson est le roi de l'apéro. Je dis, alors, à ce moment-là, mieux vaut forcer quand même sur le saucisson sans en abuser totalement que d'aller sur les chips ou ces produits salés sucrés qui sont très addictifs mais qui sont très nocifs. Restons sur les salaisons françaises et le salaison en est une, elle est de qualité exemplaire. Ensuite, vous avez plusieurs variétés de saucissons. Bon, il y a le saucisson sec de montagne classique, hein, saucisson pur porc. Alors voilà, regardez bien sur l'étiquette que ce soit marqué pur porc. Si vous avez en plus l'adresse d'un artisan, vous voyez, c'est une ville du Massif Central, faites un peu de géographie, vous allez comprendre qu'il y a une origine artisanale. Et puis ensuite, vous avez les spécialités. Vous avez la saucisse sèche en Auvergne, qui est d'ailleurs le saucisson d'origine. C'est ensuite qu'on l'a grossi. Saucisse sèche artisanale merveilleuse. Et puis vous avez les deux grands fleurons du saucisson lyonnais, que sont la rosette et le Jésus. Alors la rosette, pourquoi? La rosette, parce que c'est cette partie du boyau du porc, comme il est un peu plus rose dans le gros intestin, qu'on a appelé la rosette. Donc c'est un saucisson assez long, 40 cm de long. Mmh. Il est beaucoup plus large. C'est pour ça qu'il est ficelé comme un rôti. L'extrémité,
c'est pour ça qu'on peut s'en servir pour les sandwichs, par exemple.
Ça, c'est vraiment le saucisson gastronomique d'entrée. À Lyon, on vous le sert dans les bouchons. On vous le sert en entrée avec des cornichons ou une terrine. Mais c'est le parfait saucisson de l'apéritif. Et puis, vous avez le Jésus. Alors, pourquoi on peut appeler un saucisson un Jésus? Parce que c'est la partie d'intestin, on va dire, c'est presque le rectum. Hein, c'est le boyau de porc. Rassurez-vous, tout ça, le chaudin, son nom professionnel est nettoyé. Et alors, on dirait, comment vous dire, le Jésus, il est rond. Et comme il est souvent présenté dans un sac en toile, mal, eh ben on dirait le petit Jésus dans sa crèche.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, vous voyez, il est là, il est langé, le Jésus, le bon Jésus. Il est évidemment massif, on dirait une grosse poire, si vous voulez. C'est ça, un petit peu rondelé sur le côté. Et comme à Lyon, c'était la charcuterie que l'on servait au moment des fêtes, on a aussi pensé que ça, on l'appelait Jésus parce que c'était le saucisson que l'on dégustait à la fin de l'année. Mmh. Voilà les spécialités.
Et il y a plein de parfums aussi.
Alors là,
il y en a même beaucoup.
Il y en a beaucoup trop. C'est comme les pains.
J'ai même vu qu'il y avait du saucisson à l'huître. Ça va très loin. Non,
mais si vous saviez ce qu'on a inventé, l'imagination des producteurs de saucissons, souvent d'ailleurs dans l'industrie plus que dans l'artisanat. Alors au départ, ça peut être des saucissons aux noix ou noisettes, à l'huile d'olive, du saucisson au cèpe. On peut le parfumer à tout ce que l'on veut. J'ai vu du saucisson au miel. Alors évidemment, au saucisson au piment. Vous avez tous les condiments, tous les arômes. Saucisson au cornichon. Enfin, j'ai vu tout. Attention, parce que si le saucisson est bon, on n'a pas besoin de l'aromatiser avec un maquillage artificiel. Il est bon pour lui-même. En général, quand on maquille, c'est qu'on a une matière première, c'est qu'on a une viande de porc qui est pas terrible.
Donc les saucissons au fromage, tout ça, on évite, vous prenez pas.
Ah, regardez, moi j'ai goûté, ouais. Ça m'intéresse pas, puisque qu'est-ce que je mange? Je mange le fromage, je mange la noisette, je mange le cèpe ou je mange le saucisson. C'est comme vous savez le brie avec la truffe. Bon, moi j'ai une réticence là-dessus. Si le fromage est beau,
je suis pas d'accord.
Ça fera l'objet d'un autre débat. C'est un autre sujet. Et ensuite, Anaïs et Clara, nous avons les saucissons régionaux.
Ouais.
Alors le saucisson de Corse, formidable. Le saucisson du Noir de Bigorre dans les Pyrénées. Je vous ai parlé de l'Auvergne où il y a toute une gamme de saucissons. Mais vous en avez des salaisons formidables dans les Alpes. Et puis vous en avez aussi en plaine. Vous avez des saucissons alsaciens. Vous avez le salami qui est une forme de saucisson haché menu très très fin. Et puis ensuite, dans toutes les bonnes charcuteries, les artisans charcutiers français dans les grandes villes. Et vous en avez à Paris. Hein, si on va chez Gilles Véraud, c'est le temple du saucisson. Et tous les charcutiers artisans de France. En Bretagne, vous avez une tradition. Vous demandez est-ce que vous faites le saucisson maison. En général, il est pendu à un bâton avec une ficelle. Vous voyez bien à sa tête que c'est un bon saucisson français fait à la maison. Et là, vous avez la garantie de passer un très bon moment.
Ah, Péricot, tiens, vous savez, les petites boules de saucisson, les bâtonnets de saucisson qu'on trouve de plus en plus, ça vous prenez ou pas?
C'est le bonheur des enfants.
Ouais.
Et là, une fois de temps en temps, ils sont pas mauvais gustativement, mais c'est pas ça le saucisson. Ça, c'est, vous voyez, c'est la démarche du marketing. On transforme le saucisson en bonbon. Et donc, les enfants sont ravis, le mangent, et voilà. Et moi,
facilement d'ailleurs.
Justement, sur les aires d'autour, dont on en parlait la dernière fois, ça, c'est la profusion des bâtonnets. Non, on essaie d'éviter. Ça peut faire de temps en temps amuser les petits palais, mais le mieux, c'est quand même de rester sur des vrais saucissons. Et vous m'avez amené justement un petit test.
Allez.
Donc là, je vois à l'œil. Un saucisson très dense, bien formaté, un peu comme un fruit, vous savez, les fruits industriels qui sont sur les étals de grande surface, bien rond, bien rouge, bien vert. Et puis à côté, j'ai un saucisson, j'allais dire, un petit peu plus rebelle, moins formaté. Je vais le goûter. Hein.
Allez, goûtez. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce saucisson, la différence.
Alors, celui que je pense est artisanal et superbe.
C'est Clara.
Il est onctueux.
Clara va nous dire si vous vous trompez ou pas.
Il est long.
Vous avez tout juste. Mais j'ai cru voir que vous aviez été dans le jury du championnat du monde de France, pardon, de saucisson.
Absolument.
Donc j'imagine que
c'est un expert.
C'était à Agnès. Voilà. On était un peu dans la banlieue parisienne et on avait tout un tas de saucissons dans leur diversité. On s'est régalé et il y avait quelques bijoux, il y avait quelques joyaux.
Péricot, pendant que vous mangez, j'ai une question fondamentale à poser à Clara Gabillet. Clara, le saucisson, est-ce qu'on le mange avec ou sans la peau?
Mais ça dépend du saucisson que vous achetez, que vous mangez. Hein. Plus le saucisson est artisanal, par exemple, qui vient d'un charcutier boucher, plus vous pouvez manger la peau, mais attention, toutes les peaux ne se valent pas. Si c'est fabriqué en boyau naturel de porc, alors bien sûr, vous pouvez y aller, ça rajoute du goût. Par contre, si c'est une version synthétique à base de collagène, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et alors, si c'est une version plastique, alors là, vous, bien sûr, vous ne mangez pas. Et puis, il y a la question de la fleur. Si c'est cette petite couche blanchâtre qu'on retrouve autour du saucisson, si c'est naturel, c'est intéressant à goûter, ça peut rajouter du goût, du caractère, mais souvent, c'est fait à base de talc ou de carbonate de calcium. Et là, ça n'a pas de goût, pas d'intérêt. C'est pas dangereux, on peut le manger. Et puis, de toute façon, si vous êtes perdu, si vous avez un doute, normalement, les industriels doivent indiquer sur l'étiquette si on peut manger la peau ou pas.
Ah oui, d'accord. Bah, vous nous avez évidemment donné envie. Hein.
Vive le saucisson, ma chère. Vive le saucisson d'RMC, bien entendu.
Évidemment. Merci beaucoup, Péricot. On vous retrouve très vite dans Estelle Midi.
Voilà pour décrypter l'actualité.
Le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Restez avec nous dans un instant, la météo et vos grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC,
la matinale week-end.